Bonjour à tous, on fête aujourd'hui le printemps des poètes, 20e édition et première pour sa nouvelle directrice artistique de cette manifestation. Elle s'ouvrira dès demain, ce sera jusqu'au 19 mars. Partout en France, Sophie Nollot, écrivaine, auteure de la poésie à l'épreuve de soi, chez Actes Sud, notre invitée dans la deuxième partie de la Grande Table, accompagnée de Marc-Alexandre Obambé, alias Capitaine Alexandre, qui signe chez Sabine Vespizer, un trait doux, Dien Bien Phu, à retrouver après le journal d'Antoine Mercier. Mais d'abord, le roi François Cheng revient à l'essentiel avec « Enfin le royaume » chez Gallimard. Un recueil de quatrains, une amorce de méditation, calligraphie, poésie, roman, il est un empereur des formes, enseignant, traducteur et écrivain. L'académicien François Cheng est notre premier invité. À écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard si vous le souhaitez sur franceculture.fr.
La Grande Table. Olivia Gesbert.
Né en Chine, arrivé en France à 18 ans, passionné de littérature française sans en connaître la langue, il va apprivoiser le français et apprendre à exister comme le narrateur de Le Dit de Tianyi. Solitaire, intempestif avant de faire communauté autour des mots et de la pensée, il enseigne, traduit nos classiques en chinois de Victor Hugo à René Char et entre en littérature corps et âme. Et de l'âme, il écrit « Ton âme, tu la sais sans la voir, mais tu vois celle d'un autre quand il s'émeut ou se confie ». Miracle des regards croisés, fenêtre ouverte, voyant l'âme de l'autre, tu vois la tienne propre. Extrait de son nouveau recueil, Enfin le royaume, paru chez Gallimard. Un recueil de quatrains où il explore le sens de la vie, esquisse un chant. Auteur par ailleurs, François Cheng, de trois méditations sur la beauté, sur la mort et sur l'âme, réunis aujourd'hui dans un coffret chez Albin Michel. François Cheng, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. D'ardeur et d'azur, alouette aux champs purs, d'un coup d'aile tu rejoins le printemps des poètes. Un inédit de vous en exergue de ce printemps des poètes. On imagine que votre âme est en fête ou en joie aujourd'hui, puisqu'on célèbre cette année encore, en 2018, partout en France, la poésie. Poésie que vous avez consacrée, art du langage même. Ça vous réjouit qu'en 2018, aujourd'hui encore, la poésie soit célébrée, François Cheng ?
Enfin, en tout cas pour moi, personnellement, hein, la poésie, bien sûr, est l'essentiel. C'est-à-dire, nous sommes des êtres de langage, et c'est la poésie qui porte le langage à son plus haut degré de signifiance, si on peut dire. Hein. Donc, par son chant, elle est capable de révéler le mystère de notre destin au sein de l'univers vivant, pour moi.
Et votre rapport à la poésie, François Cheng, est-il proche de celui de l'écrivain, poète, critique littéraire et traducteur suisse vaudois Philippe Jacotet ? Écoutez.
Dans mon cas, c'est absolument vrai. Je l'ai senti très tôt et je l'ai souvent dit et répété. Je pense que les meilleurs poèmes que j'ai écrit m'ont vraiment été donnés comme ça. Bon, ça, c'est vrai qu'il y a un travail qui se fait dans la tête, mais on ne s'en rend pas compte, et presque sans retouche. Et que là où je voyais très bien que là où je devais retoucher, je risquais de gâcher les choses. Et peut-être cela tient ou c'est lié à ce sentiment aussi d'une nécessité du naturel total, c'est-à-dire de... Il y a peut-être un peu de taoïsme dans mon cas, si j'ai bien compris le taoïsme. Je veux dire que j'ai le sentiment que dans ma nature, il y a une nécessité de me laisser aller, de me laisser imprégner d'une certaine passivité d'écoute, d'accueil des choses et du monde extérieur, sans un trop grand contrôle de la raison, qui ne vient qu'après. Un jour, je crois que j'ai employé une comparaison qui, je pense, est assez juste pour que je la reprenne, même si elle est écrite quelque part, c'est que j'avais un peu l'impression d'être comme quelqu'un dans un bateau sur une rivière et qui se laisse aller au fil du courant, mais qui a tout de même une godille ou une rame pour se diriger, pour corriger le... Je crois que c'est assez cela, mon rapport avec la poésie.
Être à l'écoute de manière déraisonnable, nous dit Philippe Jacotet. Est-ce que pour vous aussi, François Cheng, la poésie est une godille, une rame qui vous guide dans l'existence ?
Voulez-vous bien répéter le dernier mot dans les...
Philippe Jacotet qui nous parle de la poésie comme d'une godille, d'une rame qui le guide aussi dans l'existence, qui lui permet de se rattraper sur ce flot de la vie. Est-ce que vous interprétez, est-ce que vous donnez cette place-là à la poésie dans votre vie ?
Tout à fait, parce que tout à l'heure, Jacotet a évoqué le taoïsme. Dans le taoïsme, la notion de base, la plus simple, c'est la voix, V-O-I-E. Et c'est notre propre voix, V-O-I-X, qui essaye de joindre notre propre destin, qui est souvent misérable, mais en même temps de les enclencher dans la voix, V-O-I-E. Et c'est ainsi que notre propre destin et replacé dans un contexte plus large et plus ouvert et plus pérenne aussi. Je pense que c'est notre langage a pour mission de assurer cette liaison entre notre propre destin et l'univers vivant, et la poésie y joue un rôle éminent.
Vous, vous insistez beaucoup sur l'importance du souffle, de ce souffle poétique. C'est celui qui permet de porter la voix et d'indiquer la direction de cette voie VOIE que l'on peut prendre, que la vie devrait prendre.
Tout à fait. Nous ne devons pas oublier que ce souffle dont vous parlez est en train d'animer l'univers vivant. Et c'est ce même souffle qui nous anime. On se rappelle que notre mot « âme » dérive du mot « anima », qui est le souffle de vie. Et donc tout cela est uni et est en relation permanente. Oui. Il ne faut jamais oublier cela. Oui.
François Cheng, les choses et l'être ont un grand dialogue, nous rappelle Victor Hugo, que vous avez traduit en chinois dans Les Contemplations, extrait de son poème « Ce que dit la bouche d'ombre » dans « Enfin le royaume », votre nouveau recueil de quatrains. Avec qui dialoguez-vous, François Cheng ? Avec la nature ? Avec nous autres ?
Si, il y a d'abord les autres, nos semblables, il y a la nature. Mais tout à l'heure, nous venons d'évoquer la voix. Il y a peut-être autre chose aussi. Dans un des quatrains, si je me souviens bien, j'ai dit que notre drame d'ici se joue au sein d'une autre réalité. L'autre, invisible et sans limite, suspend l'ici en son ouvert. Et donc, je crois que grâce à la poésie, justement, notre existence, au lieu de devenir une sorte de fermeture, de clôture étouffante, devient rejoint l'ouvert qu'est la voix, encore une fois.
Mais vous dialoguez aussi, parce que vous vous adressez dans chacun de ces poèmes avec quelqu'un, avec peut-être cet au-delà, avec peut-être cet autre nous, avec vous-même probablement aussi, et avec la nature. Toujours dans ce poème, Victor Hugo dit, écrit « Car les choses et l'être ont un grand dialogue, tout parle, l'air qui passe et l'alcyon qui vogue, le brin d'herbe, la fleur, le germe, l'élément. » Vous, vous écrivez dans « Enfin le royaume, l'aile de l'or frais, frôlant, le feuillage fait tomber, l'ultime goutte de pluie sur l'étang, miroir brisé. »
Merci beaucoup d'avoir repéré ce poème, qui est très discret.
Mais j'ai peut-être pas trouvé le bon souffle.
Ah si, ça m'a beaucoup touché, vraiment.
Qu'est-ce que la poésie cherche à saisir ou à accueillir, François Cheng ?
C'est justement, je n'ai pas besoin de donner la réponse, je récite ce poème. C'est-à-dire, lorsque nous nous parlons, le rêve est à venir. Lorsque nous nous taisons, il est là à cueillir. Et donc, c'est toujours inattendu et inespéré. Et c'est pas à nous de donner une réponse exacte. Hein. C'est accueillir ce rêve qui advient. Oui.
Un rêve qui est forcément fugitif ? Éphémère.
Oui, parce que c'est l'instant. Un autre quatrain encore, décidément. J'ai dit que éternel à Dieu, à tout moment, et éternel bonjour à chaque instant.
En l'instant instant. Unique.
Oui. C'est parce que l'instant est toujours unique. Et c'est là notre vérité. c'est notre manière de rejoindre l'éternité, hein, par ce chant fulgurant qui jaillit en instant. Et c'est déjà l'instant de l'éternité, oui.
Et vous écrivez aussi « Sois prête à accueillir tout instant qui advient, sente gorgée de soleil, grisée de lune, clairière ».
Merci.
Vous faites le portrait du poète en tantale, hein, François Cheng aussi. On sent que c'est un éternel recommencement, qu'il faut travailler pour essayer de saisir cet instant. La faim est notre lot, force nous est d'endurer. La soif est notre lot, force nous est de durer. C'est le portrait du poète en tantale, mais c'est aussi un travail de Sisyphe que vous menez là avec la poésie. Saisir le mystère de nos vies, pour vous, il est inséparable de ce travail qu'il faut remettre sur la table chaque jour, que vous menez, vous aussi, avec la langue, depuis plus d'un demi-siècle.
Tout à fait. Là, vous touchez un point tout à fait sensible et central pour moi. Donc j'ai embrassé la poésie française, la langue française, il y a plus de, en tout cas avant votre naissance.
Tout petit peu avant.
Oui, en tout cas. Alors donc, ma poésie en français a commencé justement par un quatrain. Nous avons bu tant de rosée en échange de notre sang, que la terre, 100 fois brûlée, nous s'est bon gré d'être vivants. Ce poème, je l'ai écrit en 58, donc il y a exactement 60 ans, cette année. Et donc, au cours de ces soixantaines d'années, c'est un travail de passion et parfois de désespoir, parce que la langue française est difficile à apporter, à acquérir et à intérioriser. Et finalement, cette langue est devenue ma musique. Ma musique, je dirais même, puisque nous abordons la forme du quatrain, j'ai commencé par le quatrain, mais par la suite, bien sûr, je me suis servi d'autres formes de poésie, mais à mesure que j'avance en âge, et maintenant c'est le grand âge, hein, je reviens à cette forme essentielle, qui est d'ailleurs une forme essentiel dans toutes les traditions poétiques. En Chine aussi, le quatrain est une forme de majeure. Et en France, bien sûr, le quatrain existe comme une forme en soi, mais chaque strophe d'un poème plus long est aussi un quatrain. Mais le quatrain a ceci de spécial, c'est que c'est la forme la plus concentrée, et en même temps, qui a un contenu très complexe, donc comme un diamant qui, depuis l'intérieur, irradie dans tous les sens. Donc le quatrain n'est pas seulement une simple citation, c'est un univers en soi qu'on retient facilement par cœur. Donc en français, à partir de Charles d'Orléans, le temps a laissé son manteau de vent, de froidure et de pluie. C'est notre temps actuel. Et tous les Français connaissent par cœur l'éternité. Elle est retrouvée, quoi, l'éternité, voyez. Et puis, ce matin même, j'ai lu un quatrain de René Char. J'essaie de le réciter par cœur. Il a dit, en toute simplicité, qu'on peut retenir par cœur, qui devient notre propre voix. Il a dit, nous sommes ingouvernables. Le seul maître qui nous soit propice, c'est l'éclair, qui tantôt nous illumine et tantôt nous pourfend. Je crois que c'est un peu le propre du quatrain, justement. C'est cet éclair qui nous illumine et parfois nous pourfend, mais en même temps qui devient notre musique intérieure et puis devient notre bien commun, puisque nous pouvons réciter ensemble. Oui.
Et qui sont vos maîtres en quatrain, François Cheng?
Bon, en Chine, bien sûr, il y a beaucoup de maîtres, hein, comme Li Bo, Du Fu, Wang Wei, ce sont des grands noms. Bon, mais du côté français, d'ailleurs, j'ai dit justement que la langue française est capable de foisonnement, de flamboyance, à la manière d'un Bossuet, d'un Chateaubriand, ou même d'un Hugo, mais il y a une autre lignée de poètes qui travaillent justement dans la concision, dans la cristallisation. Et là, je peux citer beaucoup de noms. Hein. Il y a d'abord, j'ai cité bien sûr Maurice Sèvres, hein, Charles d'Orléans, mais en passant par Racine et La Fontaine, qui ont travaillé la langue. Et après, pour moi, bien sûr, il y a Nerval, il y a Baudelaire, il y a Verlaine et Mallarmé. Et puis, parmi les contemporains, je cite Henri Michaux et puis René Char, par exemple. Hein.
Mallarmé, qui dans ses correspondances écrivait que les quatrains et les tercets lui semblent des chants entiers et je passe parfois 3 jours à en équilibrer d'avance les parties pour que le tout soit harmonieux.
Tout
c'est
à
une
fait.
Forme essentielle, vous le dites, François Cheng, mais c'est aussi une forme extrêmement difficile. Pourquoi vous ajoutez, le temps venant, l'âge passant, de la contrainte, vous qui avez toujours souhaité être aussi un poète libre?
Et c'est là, justement, à un moment donné, on se dépouille complètement. D'ailleurs, il y a même un quatrain qui dit « Devant la mort, on laisse tout », ne gardant pour nous que cet amour inachevé d'une âme singulière. C'est cette part que le Dieu même ne peut remplacer. Et donc, c'est pour répondre à votre question, à la fin, on est, comment dire, on se tient simple, on s'en tient à cet essentiel, à cet irréductible, c'est-à-dire quelque chose qui m'oblige toujours à continuer à parler, et c'est cette voie-là que, donc il n'y a que la forme du quatrain qui me permet de cerner cela, de cristalliser cela, oui.
François Cheng, vous êtes notre invité jusqu'à 12h30 à l'occasion de la parution de votre recueil de poèmes de quatrains, Enfin le Royaume, qui vient de paraître chez Gallimard.
France Culture. La Grande Table. Olivia Jasbert.
La vie, la mort, François Cheng, vous en parlez. Dans Enfin le Royaume, vous poursuivez votre méditation sur la mort. Autrement dit, la vie, pour reprendre le titre de l'un de vos ouvrages paru chez Albin Michel en 2013. À bout de soif, une gorgée d'eau, toute mort et vie, désert, oasis, écrivez-vous ici, dans Enfin le Royaume. Jean d'Ormesson, académicien comme vous, que vous avez connu, décédé en décembre dernier, disait de vous dans le Figaro « La vraie vie, la vie ouverte, selon François Cheng, n'est pas dans l'effacement, mais dans la propre figuration. Ces 5 méditations sur la mort chantent le triomphe de la vie. » Jean d'Ormesson, autour de la vie et de la mort.
Il n'y a rien de plus intéressant que la vie. Et la mort fait partie de la vie. La mort, c'est la vie. Vous savez pourquoi nous mourons ?
Oh non.
C'est parce que nous vivons. Et nous avons de la chance de mourir. Vous savez, travailler n'est pas gai. Travailler n'est pas gai. Mais ne pas travailler, ne pas avoir de travail, c'est pire. Mourir n'est pas gai. Mais ce serait bien pire de ne pas mourir. La vie est belle. Parce que nous mourrons. Ce n'est pas un paradoxe. Ce n'est pas un paradoxe. Ce serait atroce si nous ne mourions pas. Et quand le Christ veut punir le juif errant, il le condamne à l'immortalité. La vie est belle parce que nous mourrons.
François Cheng, tout est dit. La vie est belle parce que nous mourrons. Vous citez souvent Malraux. La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie.
Je peux peut-être juste modestement prolonger un peu. Là, je reviens aussi à un des quatrains. Si j'ai dit que la mort rend tout unique et un unique accès à la transformation. Donc, au-delà de la mort, il faut introduire l'idée de la transformation. Et c'est un prolongement que je me permets d'ajouter au propos de... C'est vrai que sans la mort... la vie est un étirement, comment dire, qui reste toujours dans la même dimension, tandis que c'est la vie qui rend unique tout instant, y compris cet instant même où je suis en face de vous. Mais par contre, l'amour est en même temps l'unique accès pour nous à la transformation, c'est-à-dire à un autre ordre de vie. Et ça, c'est pas à moi de tirer les conclusions là-dessus, mais Je me permets d'ajouter ce prolongement, cette ouverture, oui.
Et pour compléter encore, je rappelle que vous êtes l'auteur de L'éternité n'est pas de trop, paru en 2002. On sent chez vous en permanence, François Scheng, notamment dans ce recueil, l'influence de la pensée à la fois chrétienne et taoïste, qui nous rappelle que nous ne sommes pas des êtres isolés, que nous sommes tous reliés, que nous appartenons tous à ce grand tout. Et pour vous citer encore, le vide, c'est alors qu'au fond de soi s'ouvre à nouveau la voie qui du rien avait fait naître le tout où la vie vécue se découvre en neuf partances. Toutes ces questions du tout, du rien, de la vie, de la mort, elles sont les mêmes partout dans le monde. Nous sommes tous confrontés à notre propre finitude. Mais est-ce que les réponses qu'on y apporte sont différentes en Asie et en Europe, à l'Est, à l'Ouest?
Là, pour faire court, hein, parce que ça peut nous entraîner très loin, mais ça nous permet de rejoindre le début, c'est-à-dire j'ai réintroduit l'idée de la voix, V-O-I-E. C'est la voix qui est à la base de la pensée orientale, hein, y compris la Chine et l'Inde. Mais du côté de l'Occident, puisque vous m'avez parlé, vous avez évoqué le christianisme, il y a quelqu'un quand même qui a prononcé la voix. C'est les trois V christiques, hein, je suis la voix, la vérité, la vie. Et donc, là, il me semble, fondamentalement, il n'y a pas de contradiction. Au contraire, il y a une sorte de convergence. C'est-à-dire, chez le Christ, bien sûr, la voix est toujours incarnée. Hein, incarnée, c'est-à-dire, depuis la naissance jusqu'à la mort, et y compris jusqu'au-delà de la mort, c'est toujours incarné. Donc, c'est une voix incarnée, mais c'est une voix quand même, V-O-I-E, qui est la base de notre propre voix, V-O-I-X. Hein. Donc je rejoins à nouveau la poésie à notre propre démarche dans cette voix, V-O-I-E, oui, qui est l'univers vivant en devenir.
Et vous croyez en quoi, vous, aujourd'hui, François Scheng?
Ah, il faut croire en la vie. D'ailleurs, c'est un de mes derniers quatrains, je crois. Je dis, quelque chose de grand a lieu. L'univers, non, la vie. Pour nous, la vie, c'est l'unique aventure, c'est un don inouï, nous devons jamais être placés et désespérés, il faut toujours affirmer le principe de vie, oui.
François Scheng, on l'a évoqué, enfin le royaume est un recueil de quatrains, quatre vers autonomes, des formes minuscules pour saisir le tout du monde, une forme contraignante que vous avez choisi d'adopter pour ce recueil. Est-ce qu'il y a un lien à faire avec la calligraphie que vous avez pratiquée? Comment a-t-elle influencé le poète? Je vous propose d'écouter quelques mots de Fabienne Verdier à ce sujet, artiste peintre qui a beaucoup calligraphié. Voilà ce qu'elle en dit.
Tatoué d'encre noire, balisé d'espoir, il me dépasse cet instant où la forme surgit. Abandon du soir, retraite obligée, humiliation du corps qui n'a pas su servir l'esprit. Les genoux bleus de tant de recueillement, devant la toile, toujours vierge. L'idée tombe comme la goutte d'eau. Il s'agit, comme l'éclair, d'accomplir ma tâche, saisir les nuées d'encre et foudroyer la forme. Le secret fondamental, c'est calligraphier sans trace, capter la légèreté de l'être, s'approcher du rien qui dit tout.
La calligraphie vous a-t-elle inspiré, influencé dans votre plume poétique, François Scheng?
Si, surtout justement dans le quatrain, parce que les quatrains, chaque mot compte. Hein. Et donc la calligraphie, vous savez, c'est cet art qui, par le trait, par l'art du trait. D'ailleurs, le trait est une traduction du souffle vital, hein, n'oublions pas. Et cet art-là a élevé les signes humains à une dignité extraordinaire. Et donc, dans le quatrain, vous savez, le quatrain chinois est composé de 20 caractères. En Chine, on dit les 20 caractères qui composent un quatrain sont 20 êtres supérieurs qui dialoguent entre eux. Donc, c'est la calligraphie qui a élevé chaque signe humain à une dignité extraordinaire, qui rejoint presque le divin dans l'imaginaire chinois. Oui.
François Cheng, Sophie Nolot, qui est l'invitée de la deuxième partie de la Grande Table, est la nouvelle directrice artistique du Printemps des Poètes, écrit dans son livre manifeste « La poésie à l'épreuve de soi ». La simplicité d'un vers n'est pas chose facile. Je vais droit au jour turbulent, écrivait André Duboucher, qui disposait ses fragments sur des cordes à linge afin de composer ses recueils. Et vous, comment avez-vous fait, François Cheng? Vous apportez toujours un grand soin à la composition de vos recueils, ainsi du précédent aussi, « La vraie gloire est ici », paru chez Gallimard en 2015. Ici, à quel cheminement répond l'agencement de ces quatrains? Comment vous avez composé ce recueil, Enfin le royaume?
C'est un travail nuit et jour, hein, et souvent à la recherche d'un la recherche d'un mot me coûte plusieurs nuits d'insomnie. Et même tout récemment encore, il y a un lecteur qui m'a envoyé un dessin accompagné d'un de mes quatrains, et aussitôt j'y ai vu un défaut. Donc après avoir reçu j'ai presque passé trois nuits à réfléchir comment changer ce mot. Enfin, c'est un exemple, hein. Donc d'une façon générale, j'écris à la main. Je ne tape ni à la machine, ni sur l'ordinateur. J'écris toujours à la main, mais je dispose sur la page toujours des vides autour des signes. Comme ça, je peux redisposer d'une autre manière. Donc, c'est un travail de longue haleine, ouais. Oui. Et souvent, je reviens là-dessus, oui, reviens à la charge.
Là,
oui.
Vous ne pouvez plus bouger, ça a été publié tel quel, donc la composition, le sens ne changera pas. Dans Le Dialogue, une passion pour la langue française, François Cheng, et j'en terminerai là-dessus, un texte paru un an avant votre entrée à l'Académie française, livre Grand Prix de la francophonie décerné par la dite Académie, vous louez la souplesse de la langue française, pleine de ressources. Le français, c'est votre langue d'écrivain, vous nous l'avez rappelé. Dans les débats actuels sur la francophonie, au lendemain de la conférence internationale pour la langue française et le plurilinguisme dans le monde, est-ce que vous diriez que le français est une langue sans frontières, une langue en partage, qu'elle n'appartient à personne?
Si, c'est une langue universelle parce que la langue française est répandue dans le monde entier, n'oubliez pas. Hein. Par exemple, le chinois, c'est une langue parlée par le plus de personnes, mais c'est uniquement parlé par les Chinois. Tandis que le français est répandu dans le monde entier. C'est une langue universelle.
Mais elle n'appartient pas à la France, elle appartient à tous ceux qui choisissent cette langue?
Tout à fait, elle appartient à la France, mais en même temps, un des atouts de la France. Hein. C'est comme ça que la France continue sa vocation de l'universel, oui.
Merci mille fois à vous, François Cheng, d'être passé autour de cette grande table à l'occasion de cette 20e édition du Printemps des Poètes. Enfin, le royaume, votre recueil de quatrains, vient de paraître chez Gallimard. Merci.